efficace ta proposition. Mais j'ai une voix forte.
Non, mais ça passe pas dans les enregistrements ensuite quand on est sur le site.
Si on inverse la proposition, si Dieu n'est pas mort, rien n'est permis. Donc on est dans le carcan. Et ce que tu as évoqué tout à l'heure dans Dieu est mort, il ne faut pas oublier aussi que cette fin de siècle du 19e, elle est marquée particulièrement en Autriche par nombre d'écrivains qui se retrouvent complètement désorientés, voire sans qualité, comme dit Musil, et donc complètement perdus. Est-ce que ça annonce aussi la Première Guerre mondiale? Je ne sais pas. Et il y a un autre problème que je voudrais évoquer, c'était à la fin de la dernière séance, celle de la semaine dernière, on avait parlé de morale, et j'avais envie de poser une question plus en présent, quand j'entends certains du politique parler de moraliser le capitalisme. Qu'est-ce que tu en penses?
Juste pour continuer sur ce que vous venez de dire, justement, c'est intéressant quand même de voir le parallélisme de cette notion d'angoisse qui apparaît au 19e siècle avec la révolution industrielle, l'évolution, ce que les gens pensaient être le progrès, le doute par rapport au progrès. Il y a eu quand même toute une évolution dans les années 1930-1970, en Angleterre en particulier, où il y a des choses, hein, en littérature, on aussi va douter, etc. Sans oublier aussi Darwin, en 1950.
Par rapport à ton renversement, je ne sais pas si on peut. Si quand on affirme comme ça une idée, son contraire logique, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Est-ce que ça veut dire que si Dieu existe, rien n'est permis? C'est jamais écrit comme ça dans Dostoïevski. Alors il y a des mathématiciens là, qui ne sont pas d'accord. Il y en a une derrière toi, puis il y en a d'autres là. Je les vois qui dès le départ font non, parce que justement, logiquement, ça ne marche pas.
Non, mais si on peut inverser.
Bah justement, c'est très rare. Enfin, tu peux pas.
La vraie implication contraire, ce serait si quelque chose est interdit, alors c'est que Dieu existe. D'un point de vue strictement logique,
c'est quoi ça? Il
faudrait que tu viennes nous faire un cours de logique. Mais en tout cas, moi, instinctivement, ça ne me semblait pas au plus juste comme renversement. Oui, c'était l'instant. Mais. Et bon, alors, en même temps, c'est vrai que chez Ivan, hein, qui est celui qui, dans les frères Karamazov, est le plus. Répète cette phrase, c'est toujours accompagné d'une angoisse profonde, justement. C'est-à-dire, il aimerait bien pouvoir encore y croire. Et justement, tout ça, ça peut renvoyer. Parce que quand tu parlais de la révolution industrielle, il y a effectivement là l'idée, parce que s'il n'y a plus de Dieu, c'est l'homme qui devient Dieu. C'est finalement c'est l'homme qui est Dieu, et c'est l'homme qui crée son monde, qui crée le monde, qui transforme la nature, hein, qui se transforme lui-même.
Ça paraissait déjà dès le début du 19e siècle, Frank Einstein, de Marie Shelley, l'homme qui crée l'homme, qui veut créer l'homme parfait, qui se substitue à Dieu.
Oui, absolument. Donc on a cette idée de cette angoisse de l'homme délaissé et abandonné. Et qui est en même temps, mais ça apparaît même à la limite déjà dans certains travaux qui ont été faits sur la Renaissance. Je pense au texte de Coiré, du monde clos à l'univers infini, où il y a justement le monde clos, c'est le monde ordonné tel que Dieu l'a créé. Et avec la Renaissance, il y a une dédivinisation du monde. c'est-à-dire un déclin finalement de l'Église comme puissance politique qui s'accompagne aussi, qui va en fait laisser la place à l'apparition de l'humanisme, hein, qui n'est pas forcément une tendance majoritaire, mais suffisamment forte culturellement pour s'imposer. Et à ce moment-là, justement, ce qui apparaît à l'homme, c'est un univers infini. Et justement, il y a aussi des travaux qui ont montré, particulièrement, il y a eu dernièrement d'ailleurs une grande exposition à Paris sur la mélancolie, et où en fait, il y a une angoisse, il y a une inquiétude justement propre à la Renaissance de l'homme finalement qui découvre son néant face à un univers infini et il n'est plus justement cet être protégé par Dieu dans un monde clos et ordonné. Mais en même temps, cette angoisse-là, il y a en même temps, disons, une force de la raison qui est affirmée, et justement, on a à ce moment-là les fondements de la science moderne, et l'idée justement que l'homme pris dans l'univers n'est rien, ce qu'on trouvera chez Pascal, il est pris entre deux infinis qui l'enferment, le fuient, il brûle de trouver une assiette ferme, etc. Et s'il est perdu dans cet univers, il a une raison qui doit pouvoir lui permettre justement de connaître cet univers, de le comprendre et d'agir sur lui. Ce qui est le programme positiviste, tel que le formule Auguste Comte, savoir pour prévoir, prévoir pour agir. Mais donc ça signifie d'une certaine manière que l'homme ne repose plus que sur lui-même. Et cette angoisse, elle apparaîtra encore plus au 19e, justement.
Justement, une tragédie qui est reprise par Nietzsche s'inspire sans doute de Shakespeare. Tous les grands personnages tragiques de Shakespeare sont pris entre la nécessité d'obéir à la norme et leur choix propre. Et c'est pour ça qu'ils deviennent des personnages tragiques. Alors, est-ce que Nietzsche, c'est vous?
Oui. Si, vas-y.
Je sais que Nietzsche, c'est un analyste, donc il l'a pris. Oui. Il a pas besoin de passer par Shakespeare pour y apprécier l'Antiquité. Sinon, je voulais rebondir sur l'idée que si tu parles d'Angleterre et d'Allemagne, le romantisme, la conscience malheureuse, et je pense que les pays protestants, et l'angoisse, enfin, je veux dire que c'est effectivement à la Renaissance qu'il y a une angoisse qui naît de la modernité, car la modernité, c'est l'angoisse moderne, et avec le protestantisme, le monde qui devient fini, Dieu est encore plus puissant qu'on croyait, puisqu'il a créé un monde encore plus grand, mais il est encore plus loin, il est loin, il est caché, c'est plus caché, Dieu lointain le protestant, qui fait que les protestants se prennent en charge et deviennent capitalistes et industriels en Allemagne, en Angleterre, surtout, et l'homme se charge. Se prend en charge tout seul, après ça se plaît, elle choisit sa vie, même. Enfin, même dans le catholicisme, il y a une façon maintenant de prendre sa vie en main, de l'homme se fait lui-même, dirige sa conscience, et la rationalité qu'il y a dans la science, et aussi dans la religion, un effort de rationaliser sa conduite. Après ça se plaît, elle ne cèdera pas par exemple à la passion, elle décide d'entrer au courant, elle se prend en main, et ça c'est la conscience moderne, la conscience malheureuse, quoi. L'homme décide pour lui, il n'y a plus un dieu, il n'y a plus un seul comportement, il y a plusieurs religions possibles, protestantisme ou catholicisme, et donc il y a choix personnel, angoisse. Et... Je pense que l'angoisse elle est moderne, elle n'est pas du tout elle, chez Pascal, elle est chez Guibert, elle est chez tout, elle est au 16e, mais elle n'est pas seulement quand on est au romantisme.
Parce que l'idée même d'angoisse dans les textes philosophiques, elle n'apparaît pas du tout dans la philosophie classique. Pensez à Pascal. Pascal, c'est pas vraiment un philosophe. Il se moque de la philosophie, Pascal. Il le dit, hein. La vraie morale se moque de la morale, la vraie philosophie se moque de la philosophie. Pour les philosophes, il y a 795 souverains biens. Hein, et Pascal se moque. Et justement, la moquerie de Pascal ou l'ironie de Pascal, elle vient justement de ce qu'il se place du point de vue de l'infini. Et au regard de l'infini, finalement, toute pensée se réduit finalement à rien. C'est ce qu'il appelle l'ignorance savante. Mais c'est vrai que chez Pascal, il y a pas l'idée d'angoisse, mais il y a cette effroi et d'inquiétude, et que Pascal va avoir une importance, une influence très forte sur la tradition existentielle.
Oui, c'est sûr, il a déjà une angoisse existentielle. Et le Christ aussi qui sera abandonné et que sa mort est l'angoisse existentialiste.
Alors c'est vrai que cette angoisse, on la trouve dans la tradition chrétienne, mais pas dans la tradition philosophique. On la trouve dans la tradition mystique, on la trouve dans la Bible, avec le cri de David, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais en même temps, la pensée rationaliste et la pensée classique, elle est organisée justement sur une forme de confiance, sur une confiance dans la raison, qui doit pouvoir permettre à l'homme de surmonter cette angoisse. Ça, on le trouve aussi chez Kant, dans un texte absolument magnifique de Kant, sur le sublime, dans la critique de la faculté de juger. Justement, il dit, parce que le sublime, c'est un sentiment qui écrase et qui élève. C'est un sentiment de... Donc on est en plein dedans, là, quand on parle justement de l'angoisse de l'homme de la Renaissance. Et puis du fait que, par sa raison, justement, il peut dépasser cette angoisse, parce qu'il peut comprendre le monde, parce que sa raison, c'est la puissance de la raison, justement, qui lui permet de dépasser cette angoisse. C'est tout à fait l'idée qu'on a dans le sublime kantien, qui est donc à la fois un sentiment de joie et de tristesse simultanée. En fait, le sentiment d'écrasement, c'est le sentiment éprouvé par l'homme devant l'infini, l'infiniment grand, ou bien la force incommensurable de la nature, au regard duquel il n'est rien, et son imagination se trouve prise de vertige parce qu'elle est totalement incapable de se le représenter. Mais ce sentiment est immédiatement suivi d'une joie et d'une élévation, parce que justement l'homme a en lui la raison qui lui permet de dépasser justement cette douleur. C'est-à-dire qu'il a en lui une faculté suprasensible qui fait que s'il ne peut pas se représenter, s'il ne peut pas imaginer l'infini, la raison, elle peut produire une idée de l'infini. Et quant à la force incommensurable de la nature, justement, l'homme est capable, dans la mesure où il est spectateur, par exemple d'une tempête, par le fait qu'il possède en lui une faculté suprasensible, de ne pas céder à la crainte, l'angoisse et la superstition que peuvent provoquer de tels événements chez l'homme inculte. Donc on a à ce moment-là des développements où il dit justement l'homme inculte pense que les grandes tempêtes, sur la mer, tous ces éléments dévastateurs qui nous anéantissent complètement sont le résultat de la volonté divine, et en fait ça les conduit à la superstition. Mais l'homme dont la raison est cultivée trouve en lui justement cette force qui lui permet de surmonter son angoisse, en fait. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que chez Kant, on voit apparaître l'idée d'angoisse dans la philosophie, mais elle est supprimée dès l'instant même où elle est posée, puisque justement, par sa raison, l'homme est capable de surmonter l'angoisse. Alors justement, après, quand il y aura au 19e aussi, justement, des critiques du rationalisme, non pas pour faire un irrationalisme, mais pour montrer justement que la raison elle-même n'est pas cette faculté universelle qu'on a voulu penser, et qu'elle-même elle a une histoire, et qu'elle est le résultat d'un devenir, qu'il va y avoir une remise en cause finalement de la raison, qui va être mise en regard avec d'autres facultés, etc. À ce moment-là, justement, il y a aussi un regain d'angoisse, finalement, parce que si on a enlevé le premier garde-fou contre l'angoisse, qui était Dieu, et qu'on enlève le deuxième garde-fou contre l'angoisse, qui est cette raison universelle dans laquelle nous pouvons tous avoir confiance, on se retrouve vraiment perdu.
Ben, on va voir les CAC 40.
Alors toi, tu reviens à ta moralisation du capitalisme. Mais je ne sais pas si c'était une question pour répondre.
Je sais
pas, il y a peut-être des gens qui
veulent répondre. Il y a peut-être des gens, quand tu as parlé de personnages incultes.
Je vais bien poser une question un peu simpliste peut-être. Mais si j'ai bien compris, pour me souvenir, donc pense que l'homme est là pour le bien de l'humanité, le respect de l'humanité et de l'être humain. Le respect de l'être humain, c'est ça.
Le bien sera conçu.
Pas le bien, peut-être. Le bien, bien, mal, c'est peut-être pas bon, combien.
Ben, on dira que le bien, ou le moral, ou le juste, ce qui est fait en regard, justement, par respect pour l'humanité.
Ben, c'est une question qui, peut-être qu'elle rejoint un peu celle de monsieur dessus, c'est comment en sommes-nous arrivés à faire le grand écart? Parce que le bien de l'humanité, enfin, le respect de l'humanité actuelle, existe peu. Comment on a fait ce grand écart? Comment on est arrivé à faire ce grand écart?
Je pense qu'on l'a toujours fait. Je ne sais pas s'il y a. Si on, enfin, on peut aussi lire l'histoire comme le fait Marx, justement, au milieu du 19e siècle, comme l'histoire d'exploitation de l'homme par l'homme. Et. Disons que, à l'intérieur de notre. Enfin, dans notre histoire, il peut y avoir des moments peut-être pires que d'autres, mais cette idée. Lorsque Kant pose justement le principe de l'impératif catégorique, il le pose comme une contrainte. C'est-à-dire que la loi morale contraint. Hein, ça signifie. Alors, ça, c'est peut-être justement des choses dont je pourrais être amenée à parler peut-être la semaine prochaine, parce que bon, pour d'autres raisons, j'ai relu ces jours-ci Le malaise dans la civilisation de Freud. Il y a des choses drôlement intéressantes là-dessus. Avec justement, c'est dans ce texte-là que Freud pense justement à l'histoire de l'humanité comme la lutte éternelle entre Eros et Thanatos, c'est-à-dire entre les pulsions de vie et les pulsions de mort. Et la pulsion de mort, en plus, il lui donne pour origine finalement le mouvement par lequel la vie se retourne contre elle-même. C'est finalement une pulsion d'autodestruction, la pulsion de mort, qui se trouve projetée à l'extérieur de soi sur les autres, et que la morale nous oblige finalement à retourner une nouvelle fois contre nous. Et à ce moment-là, il y a toute la théorie de la formation du surmoi chez Freud, justement, qui consiste finalement à renvoyer les pulsions de destruction de là où elles venaient, nous dit-il. Je suis restée encore sur un plan. Il y avait d'autres questions que je pensais peut-être aborder, mais on voit toujours trop large hein, quand on parle juste une heure. Donc je m'adapte aussi au temps qui est donné, mais l'idée justement c'est, même sans parler de ce dont je n'ai pas parlé, si je veux juste m'en remettre à ce que j'ai dit, quand je parlais justement d'une morale en devenir, ça supposait justement que si morale il y a, elle est construction permanente. Alors justement, je parlais au début de la séance la semaine dernière des termes d'éthique et de morale. Et je disais en fait les deux termes, ils veulent dire la même chose. Mais c'est vrai qu'on peut être aussi amené à leur faire dire des choses différentes si on en a besoin. Et justement, par exemple, chez Foucault, la distinction entre morale et éthique, elle est clairement établie. Avec l'idée que la morale, c'est un ensemble de préceptes dont j'hérite et que je dois appliquer, que je n'ai pas choisi. Alors que l'éthique, elle consiste à choisir, justement à construire sa vie. Et donc, elle suppose une réflexion sur ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Donc, à ce moment-là, on pourrait peut-être réserver le terme d'éthique, si on admet cette distinction-là, et dire finalement que exister, c'est peut-être. Chercher sans cesse à construire. Enfin, c'est finalement une espèce de questionnement permanent sur ce qui est à faire. Et donc ça veut dire que il n'y a pas quelque chose en arrière de moi qui m'oblige, mais c'est ce qu'on voit un petit peu chez Sartre quand il dit qu'il s'agit d'exister comme projet, justement. C'est toujours à construire. Donc, si on dit le monde aujourd'hui ne me plaît pas, je peux me plaindre, m'arracher les cheveux, mais je peux aussi me dire que ce monde, c'est nous qui l'avons. C'est pour ça qu'on a ce monde, c'est nous qui l'avons. C'est nous qui l'avons. C'est nous qui l'avons choisi, finalement. C'est nous qui l'avons. Le résultat, finalement, de l'action des hommes, et puis c'est à nous de le changer. Mais donc, on se retrouve ici dans une perspective qui est celle d'un devenir, c'est-à-dire d'un changement possible. Il n'y a pas. Alors, justement, moi, j'ai pensé à propos des problèmes qui se posent actuellement. Disons des dérapages du pape. Je ne sais pas comment le dire, je vais me laisser trop de susceptibilité. Mais moi, ce qui me frappe, que ce soit dans les dérapages du pape ou dans certains excès de l'intégrisme musulman, par exemple aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois, ça consiste à considérer une parole qui a été énoncée il y a des siècles et des siècles. D'ailleurs, elle a été dite pour les siècles des siècles, et de la considérer comme éternelle, comme dit une fois pour toutes. C'est Ivan, hein, dans le grand inquisiteur, qui met en scène ce grand inquisiteur, qui dit au Christ, tu n'as rien à ajouter, et si tu viens pour ajouter quelque chose, moi, brûle. Donc il y a justement cette idée d'une parole qui est établie une fois pour toutes, qui est la vérité absolue, et qui donc peut absolument pas être discutée, et qui nous met face à des... Enfin, quand on se retrouve pris dans des situations particulières, dans des situations singulières, ben finalement, on trouve ces grandes religions totalement inadaptées à la vie sociale moderne. Et alors justement, est-ce que la morale, ça consiste à appliquer... Des règles éternelles, ou bien est-ce que finalement la morale au sens d'éthique, c'est justement être capable de comprendre le monde dans lequel on vit, de comprendre les situations nouvelles et d'organiser l'action de façon justement de faire les choix qui doivent pouvoir permettre justement à l'homme de continuer à vivre dans ce monde. Hein, parce que finalement, une morale figée et sclérosée devient complètement destructrice du monde dans lequel on vit. Il y a dame qui a demandé le micro.
Oui, je pensais aux religions qui n'ont peut-être pas de morale, qui ne prospèrent peut-être pas de morale. Parce que il y a des religions où il y a des dieux, il y a plein de dieux, et puis ils ne demandent pas forcément, il n'est pas transmis par la tradition des comportements moraux à adopter pour respecter la religion, je crois. C'est pas...
Alors, je pense qu'il faudrait voir de plus près, parce que...
Chez les Grecs, par exemple.
Ben, il peut y avoir des religions qui ne prescrivent pas explicitement. Et ça sera le cas, comme le montrait bien Lévi-Strauss, de toute la pensée mythique. Donc, à la fois dans la pensée primitive, mais dans toute forme de pensée, qui se transmet par le mythe, finalement, quand il y a une tradition orale, le mythe ne dit pas explicitement. Et pourtant, il transmet des normes, des codes, des règles, des comportements. Donc, à ce moment-là, il y a
une... On peut penser peut-être que c'est des usages sociaux, c'est une morale sociale, mm-hmm. plutôt qu'une morale religieuse.
Alors, effectivement, parce que ce que je viens de dire, finalement, on l'a dans toute société. Le fait qu'il y ait intériorisation d'un certain nombre de normes, d'interdits, qui ensuite guide nos comportements
et évolue aussi.
Alors ça justement sur l'évolution dans la pensée mythique telle qu'en parle Lévi-Strauss, je ne sais pas si c'est le cas parce qu'on a une pensée de l'éternel retour, une pensée cyclique où justement finalement le mythe tradition orale qui détermine les comportements des hommes, et en même temps, il est une grille d'interprétation de tout ce qui a lieu, finalement, puisque tout ce qui a lieu est vu à travers les mythes qui, finalement, donnent une explication à tout ce qui est. Et de ce point de vue-là, finalement, on a ça aussi dans la religion. C'est-à-dire, non seulement il y a des règles qui nous disent ce qu'on doit faire, mais tout ce qui a lieu est interprété à travers la grille d'interprétation, finalement, religieuse. Alors après, il y a des religions que je ne connais pas bien. Je pense, on en avait parlé rapidement la dernière fois, au bouddhisme et au confucianisme.
Et l'hindouisme aussi.
Oui. Et ça, je reconnais que... Bon, j'en avais parlé un petit peu la dernière fois. Quand je trouve des choses, quand je tombe sur des choses qui en parlent, je lis, parce que ça me rend très curieuse. Mais je ne suis pas spécialiste du tout de ces religions. Ceci dit, il y a quand même dans le bouddhisme une éthique. Et il s'agit quand même de vivre dans le modèle de, en suivant le modèle de Bouddha. De la même façon que dans le christianisme, en principe, on doit vivre dans le modèle du Christ. Alors, c'est peut-être pas exactement la même façon. Enfin, je veux dire, il y a quand même aussi, dans le modèle de Bouddha, il y a quand même un modèle de sagesse.
Christianisme, il n'y a pas de modèle. C'est des questions en permanence qui sont posées. Tu fais ça, mais tu devrais faire comme ça, ou enfin, on pose des questions, mais il n'y a pas un modèle à suivre.
Non, il faut savoir si c'est le christianisme aujourd'hui. Parce qu'il faut aussi... Non, parce que ça peut être intéressant de voir que la tradition chrétienne, elle a quand même été... on peut dire qu'elle a été extrêmement prégnante sur notre histoire pendant des siècles. Et que pendant des siècles, les hommes n'ont pas eu accès forcément à l'instruction, à l'éducation, etc. Et que on croit ce que le curé du village nous a appris. Et il y a non, une. Mais non, mais je dis pas aujourd'hui.
C'est ça,
mais je parle pas d'aujourd'hui. Je parle justement de notre histoire. Et aujourd'hui, il me semble que et dans la modernité, c'est vécu autrement. Et je pense aussi que si ça s'est mis à être vécu autrement dans la modernité, c'est parce que aussi la religion a subi des attaques très très fortes de la part de l'émergence de la science, de la rationalité, de la philosophie, etc., qui l'ont mise profondément en question et qui l'oblige de fait à se moderniser, entre guillemets. Mais en principe, il y a quand même le dogme de l'infaillibilité du pape. Alors c'est vrai qu'après, les chrétiens, ils font ce qu'ils veulent, mais enfin, c'est quand même un troupeau qui est très très désordonné. Parce que finalement, en principe, si on est chrétien, on croit à l'infaillibilité du pape.
Le troupeau, c'est pas ordonné.
Et on croit à un certain nombre de dogmes. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, on a une forme de christianisme où chacun croit au Dieu qu'il veut, prend les dogmes qu'il veut, prend ce qu'il veut dans ce que dit le pape, et je ne sais pas très bien à quoi ça ressemble, moi. Comment je vous dis ce que j'en pense. Vous me répondez ?
Alors, je voudrais vous poser une autre question. Je pense que dans tous les exposés là, dont on parle actuellement, il y a trois choses essentielles dont on ne parle pas assez. C'est la connaissance du monde en général. Il y a la notion de liberté, pour moi, qui n'est pas assez explicitée. Et enfin, quelque chose de très important, c'est l'amour. Jamais ce terme n'est utilisé. Alors j'aimerais savoir, en philosophie, si ce terme existe.
La bonne question.
Je sais pas, je vous pose la question. Je ne suis pas philosophe.
Sorry, parce que ça me fait penser à une question très maladroite qu'un élève me posait l'année en début d'année, quand je débutais et que j'étais beaucoup plus âgée que mes élèves. Je disais le programme, je disais bon, alors on va travailler la conscience, la liberté, le désir, etc. Et puis un élève, mais alors c'est sorti comme ça, il dit et maintenant on fera un mot aussi. Alors je dis on en parlera. Bon, mais de manière générale, comme ça, demander si
notion, ça change complètement le raisonnement qu'on peut avoir.
Vous pouvez prendre le micro ?
Par exemple, en quoi pouvez-vous nous expliquer que la présence de Dieu empêche la construction du monde, par exemple ?
On n'a pas dit ça.
Oui, mais enfin, la façon dont c'est...
Si Dieu n'existe pas, on peut
inventer... Voilà, si Dieu n'existe pas, on peut inventer autre chose, mais s'il existe, ça me gêne pas pour la connaissance du monde, de toutes les technologies nouvelles, je ne vois pas en quoi il est gênant, il n'est pas gênant, ça ne me gêne pas.
Historiquement, les religions ont été très très dérangées par l'émergence des sciences. Le pape, ça remonte au 5e, 6e siècle, d'accord, mais il a fermé toutes les écoles de philosophie, c'est-à-dire toutes les écoles où on enseignait non seulement la philosophie, mais la grammaire et toutes les sciences. Aujourd'hui, on voit ça dans le monde musulman, où justement, il serait question de considérer justement que les sciences apportent des théories qui sont contraires à ce qui est écrit dans le texte, ce qu'on trouve aussi aux États-Unis avec le combat justement entre le créationnisme et le darwinisme.
Oui, d'accord, mais ça ne tient pas debout, mais ça.
Alors, qu'on puisse concilier l'existence de Dieu avec tout ça, c'est une chose. Il se trouve que dans la modernité, il y a eu, le projet moderne, il s'est constitué. Dans une prise d'autonomie par rapport à un monde ordonné par Dieu. Et si vous voulez parler de liberté,
c'est là où la notion de liberté intervient.
Si vous voulez parler de liberté, précisément, voilà. La liberté au XVIIe, parce que la modernité, c'est ce qui commence en gros au XVIIe siècle, à l'issue de la Renaissance. La liberté, elle est pensée justement comme le fait que l'homme pense par lui-même, qu'il est sa propre origine, qu'il ne dépend que de lui. Et quand Descartes pose l'idée du libre arbitre, voilà, il dit, mais ça c'est la pirouette que Descartes fait à tous les coups, Dieu m'a donné la liberté, mais pour que je puisse agir tout seul. Et c'est-à-dire que finalement, c'est ce que j'appelais la théorie de la pichenette originelle la semaine dernière, finalement, l'homme est libre dans la mesure précisément où il est l'auteur de lui-même. Et c'est finalement l'autocréation de soi
qui est pensée. Et c'est là qu'intervient la notion d'amour.
Parce qu'on
ne peut pas, pour être amoureux, il faut avoir quelqu'un en face. Donc,
oui, mais avoir quelqu'un en face, ça n'empêche pas d'être libre. Hein.
Mais justement, oui.
Avoir quelqu'un en face, ça n'empêche pas d'être. Pardon ?
Les deux vont de pair.
Oui, mais le face-à-face avec Dieu, c'est pas le face-à-face avec un égal.
Ça dépend ce que je représente.
Vous vous rendez compte ? Ça, c'est l'homme moderne qui croit qu'il est l'égal de Dieu. Ben, non, mais on y est. Si Dieu, c'est pas cette transcendance totalement écrasante, alors justement. Ça me fait penser justement à des textes de Nietzsche qui parlent d'un christianisme empiacé. C'est en fait la thèse de Marx, hein, la religion comme opium du peuple, où on prouve l'existence de Dieu par le plaisir, parce que c'est tellement plus rassurant et agréable de se dire qu'on est protégé par un Dieu qui a ordonné le monde une fois pour toutes. Et où justement, Moi, le sentiment que j'ai, de toute façon, on ne changera pas d'avis ni l'un ni l'autre. Manifestement, vous êtes croyant et que moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas prêt de devenir. Mais.
Certitude, mais au bon nom, ils ont raison.
Moi, je n'ai pas de certitude, remarquez.
C'est que moi, c'est difficile, si vous voulez, tous ces exposés, je les ai faits en cherchant justement à rester quand même dans un cadre qui est celui du questionnement théorique. Si je me mets à entrer sur un terrain plus personnel, je risque de dire des choses beaucoup plus choquantes.
Non, restons dans un cadre général. Mais dans ce cadre général, il y a ces notions de liberté et d'amour qui me semblent...
Qui ont été dans ce qui a été... Enfin, moi, j'ai entendu la liberté. Dans le livre, il y a une liberté. Dans la connaissance du monde, il y a bien le monde, il y a bien l'univers. Dans fais aux autres ce que tu penses pouvoir faire à l'humanité dans son entier, on parle bien d'amour, là. De quoi on parle de l'autre? Il me semble, hein.
Pas tout à fait pareil.
Fais aux autres ce...
Alors, qu'est-ce que vous entendez par amour?
C'est justement quelque chose que je n'ai pas encore réussi à comprendre.
C'est pour ça que... Je
savais bien que vous auriez beaucoup de mal à me l'expliquer, parce que depuis le temps, je n'arrive toujours pas à comprendre. Je crois que justement, c'est quelque chose qui est incompréhensible, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, mène le monde. Et sans ça, on va à la catastrophe. Enfin, c'est peut-être la seule raison qui peut permettre d'arriver à quelque chose. Si vous voulez, c'est une opinion, c'est pas de la philosophie là. Alors c'est pour cette raison que cette notion me paraît importante en philosophie et que j'aurais aimé entendre en parler davantage. Voilà, mais non, on va pas.
L'objectif et l'intérêt d'une université populaire, il me semble que c'est quand même, comme le fait Marjolaine et d'autres qui intervenant, c'est de se baser au cours des siècles sur des textes existants. Parce que si chacun de nous dans la salle interprète le monde actuel, votre vision actuelle de l'amour, etc., enfin moi il me semble que c'est pas ça l'université populaire. Voilà, mais vous avez le droit de penser, hein. Il me semble que l'intérêt, c'est vraiment de passer en revue des choses qu'on a peut-être étudiées les uns les autres, mais qu'on a largement oublié en ce qui nous concerne, et justement qui permettent de mieux comprendre, un peu comme a dit Denise, qui s'est posé la question de pourquoi le monde, malgré, etc., son ordonnement, etc., était arrivé à ce qu'il est aujourd'hui. Donc, de repartir vraiment des textes et non pas de chacun sa démarche personnelle par rapport à aujourd'hui, Dieu, etc. Il y avait
quelque chose à peine, c'est en toute considération, ma remarque, qui portait simplement sur une précision à propos de l'infaillibilité pontificale. Qui, en fait, effectivement, ça s'est bien passé pendant 1800 ans, à peu près. Et qui a, puisqu'elle a été définie au Concile de Vatican I, qui a eu lieu en 1869 et 70, interrompu par la guerre en Italie. Et donc, les théologiens s'accordent pour dire que l'infaillibilité pontificale requiert un certain nombre de conditions pour qu'elle existe, et pas du tout dans les papes, en compte des histoires sur dans son opinion, sur telle ou telle chose. Et en fait, il s'accorde à dire, de façon générale, que depuis cette époque, c'est-à-dire depuis 140 ans, si je compte bien, elle s'est appliquée une fois et une seule fois lorsque Pie XII a défini le dogme de l'Assomption. Ce qui, je veux dire, je ne sais pas comment. En dehors de ça, il n'y a pas de politique de l'infaillibilité. C'est comme ça, il ne faut pas la mettre en connaissance. Le pape donne son avis, mais c'est tout à fait normal qu'il puisse être contesté. Aussi, peut-être une précision, enfin pas une précision, mais à mon avis, c'est vrai qu'on parle beaucoup de c'est souvent le point de vue des philosophes qu'on fait référence. Effectivement, quand on parle du message du Christ, il n'est pas tellement moralisateur, il n'est même pas du tout, puisqu'il dit qu'il vient accomplir la loi et qu'elle se résume à tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-même. Et quand à son attitude à lui personnelle, celle qu'il a dans les cas qu'on lui pose au quotidien, elle n'est pas moraliste du tout. La femme adultère, par exemple, normalement, elle doit être lapidée jusqu'à ce que mort s'en suive. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, quand on lui présente le cas, il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et ils partiront tous en commençant par les plus vieux. Bon, c'est pas très moraliste. C'est bien que les institutions de moralité, des choses qui poussent, ça c'est vrai, notamment le jansénisme a beaucoup de mal. Mais bon, dans son essence même, le christianisme n'est pas moralisant, ne devrait pas l'être.
J'aurais envie de retourner, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on disait, moi je dis, vous pensiez que c'est pas parce qu'on croit que tout n'est pas permis. Bon, je vous dis, ça c'est quand même une adaptation de la religion au temps moderne. Mais on peut renverser la chose et dire, est-ce que j'ai besoin de croire pour aimer mon prochain comme moi-même?
Non, absolument pas.
Alors finalement, à quoi ça sert tout ça? Non mais c'est pour ça que je parlais du christianisme enchâssé. C'est-à-dire finalement, on a laissé tomber tout ce qui faisait quand même l'armature de la religion pour en garder finalement des choses qui ne semblent pas nécessiter l'idée de Dieu pour exister. Enfin, c'est ça un petit peu que j'ai montré aussi à travers le 19e. C'est finalement, on en est arrivé à se passer l'idée de Dieu parce que justement, ça supposait justement la liberté humaine, mais la liberté en tant que justement au sens philosophique chez Descartes, c'est la faculté de se déterminer soi-même à agir, la liberté. Et l'homme libre, c'est l'homme raisonnable, c'est l'homme responsable, capable justement de se donner à lui-même la loi. Et alors, donc finalement,
déjà Saint Paul disait que ce n'est pas la loi qui justifie.
Surprenant parce que généralement on présente Saint Paul, mais c'est pas comme ça qu'on présente Saint Paul. Mais alors moi je connais pas ces textes, je ne connais pas Saint Paul quand vous dites voilà, franchement,
je ne peux pas vous dire. Saint Paul, comme dans tous les textes, il y a beaucoup de choses. Et parfois, tout est sans contraire. Ça c'est clair.
Disons que moi ce que je trouve surprenant chez les croyants aujourd'hui, c'est qu'ils disent finalement que la religion, c'est pas la loi, on n'est pas obligé de le lire, que la religion nous prescrit. Ben, c'est pas vrai, je veux dire, historiquement, c'est pas vrai, c'est pas ça qui s'est passé. Et la modernité, elle s'est construite justement en opposition à cet ordre prédéterminé.
On parlait de l'institutionnalisation des choses. Au cours des siècles, c'est fait, c'est vrai, mais à l'origine, c'est pas ça du tout.
Justement, c'est pour ça que ça, c'est des choses dont on a peut-être eu l'occasion un petit peu de parler déjà, la différence entre le message du Christ et puis l'Église hein, comme institution, et qui transparaît aussi dans l'histoire du grand inquisiteur d'Ivan Karamazov. Justement, reviens pas, tu nous déranges. Parce qu'on n'a pas envie que tu changes ce que tu as dit au départ, et d'ailleurs ce que tu as dit, on l'a un petit peu transformé, parce que ça ne pouvait pas marcher ton histoire, etc. Hein, donc
là, c'est... Ivan critique la religion. Oui. C'est vraiment extrêmement. Oui.
Michel. Donc c'était simplement un propos de ce passé de Dieu. Il y a quand même eu un courant récemment dans la théologie catholique, les théologiens d'un mort de Dieu. J'aurais aimé quelques mots de précision dessus.
Ah ben non, mais bon. C'est vraiment ton nom. Si t'en sais quelque chose, dis-le nous.
Là, il faudrait que je rende à d'autres aussi. C'était pas ce Dieu dont tu es perdu. Là, c'est pas
ce
Dieu. Tu t'es perdu. C'est Dieu est mort en Jésus-Christ. Wow. C'est Jésus-Christ qui tue Dieu.
Et donc,
je voulais vous dire que j'étais toujours surprise par cette histoire de raison, parce qu'elle me paraît désincarnée, et j'ai du mal à me représenter une raison désincarnée. Est-ce que je me fais comprendre ?
On n'entend rien.
Oui, je parlais de la raison qui me paraît désincarnée. J'ai du mal à comprendre comment une raison peut être désincarnée.
Ça, c'est justement un petit peu ce que les philosophes du 19e ont cherché à penser. Bien, la raison, elle est effectivement pensée comme, dans la tradition rationaliste, comme pas tant désincarnée que ça, parce que c'est une faculté qui est présente en tout homme. Tout homme possède la raison, c'est la chose du monde la mieux partagée, une dernière carte. La raison, en tant que justement faculté universelle. Et je pense chez Descartes, c'est Dieu qui a donné la raison à l'homme, et il a donné la même raison à tout homme. Donc il y a un principe d'universalité dans la raison qui fait qu'effectivement la raison peut prendre le relais finalement d'un monde ordonné dont l'ordre renvoie finalement à une origine et qui justement la rend capable d'accéder finalement à l'universel. Mais alors justement, quand je disais au 19e, c'est ces questions-là qui ont commencé à être posées. La raison d'où vient-elle ? Et justement, Hegel après Kant, il va poser dans la phénoménologie de l'esprit, qui est justement l'histoire du devenir de l'esprit, à partir de sa forme la plus immédiate, jusqu'au savoir absolu, jusqu'à l'esprit conscient lui-même. Et il commence justement par prendre la raison qu'il appelle l'entendement. La raison classique, et il la replonge dans la vie. Et à ce moment-là, on a justement toute une perspective, justement, qui est celle de la vie, de l'histoire et du devenir au 19e siècle. Et Hegel, replonge l'homme dans la vie, il va le penser d'abord comme un être désirant, comme un être de désir, et avant d'être un être de raison. Et finalement, la raison, elle est le résultat d'un développement. Elle est le résultat d'une histoire. Alors, chez Hegel, on a encore l'idée, justement, d'une raison qui est universelle. Et qui s'est développée à travers, au cours de l'histoire des hommes. Mais ça conduit, c'est un questionnement qu'on retrouvera aussi au XXe siècle, y compris dans la phénoménologie, où il s'agit justement de repartir finalement de la perception, et de la perception justement comme qui fait que c'est la conscience qui est constituante du monde. Donc à ce moment-là, c'est précisément même ces pensées comme étant on aura chez une sœur et chez Merleau-Ponty l'idée de la chair du monde, et que justement je suis un être de chair qui est pris dans la chair du monde, et c'est ce rapport primordial qui est antérieur à tout jugement et à toute conceptualisation. Qui est finalement au fondement de la raison et de la logique. Et en gros, Husserl, qui font la phénoménologie, pose la question finalement, si on veut penser la logique, il faut revenir à un stade antérieur à la logique, dont la logique n'est qu'une formation de second ordre. La logique étant ce qui règle notre discours, justement rationnel. Donc il s'agit de revenir aux choses mêmes, dit la phénoménologie, mais pour saisir justement pour comprendre comment un monde vient à naître, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il y a un monde. Et à ce moment-là, justement, on entre dans des considérations qui conduisent finalement à une critique de la raison, non pas qu'il s'agisse de tourner le dos à la raison et de s'en passer, mais une critique du rationalisme classique qui resitue finalement la raison dans un contexte beaucoup plus vaste qu'elle, dont elle dépend, et qui peut aussi permettre de penser des rationalités à l'œuvre, et non plus une raison. Voilà. Bon, c'est vrai que la question est très juste. Mais c'est une question qui apparaît vraiment, qui est très très contemporaine, finalement.
Oui, et certainement qu'en regardant ça maintenant, en regardant quand maintenant, je disais qu'en regardant de maintenant sur le passé, effectivement, pour moi, c'est un peu difficile d'imaginer cette raison rationnelle, de l'imaginer en tant que... C'est le mot désincarné qui me paraissait
oui, mais,
juste.
Mais c'est vrai aussi que dans l'histoire, elle est un principe quasi divin. Le Dieu des philosophes, la raison, enfin c'est pour ça que j'y reviendrai un petit peu avec Nietzsche dans le pourquoi nous sommes embarqués. Parce qu'il y a aussi une croyance en la raison, et il y a aussi une croyance en la science aujourd'hui, comme en quelque chose de stable et d'universel, d'éternel, sur quoi on puisse se reposer, qui fait qu'on n'a pas à se demander ce qu'on va faire de nous. Parce que c'est quand même ça l'histoire, qu'est-ce qu'on va faire de nous. C'est de là que vient l'angoisse.
Friser la croyance.
Ah oui, justement, mais est-ce qu'on ne peut pas croire?